Théologie naturelle, Père Philippe Saint-Joseph, 17 octobre 1984.
Alors, si vous voulez, d'abord, je situe ce qu'on appelle théologie naturelle ou sagesse. Vous voyez, philosophie première ou métaphysique, théologie première ou sagesse. Il y a une espèce de mutation très curieuse, difficile du reste à comprendre, parce qu'il faut bien se dire que très peu de philosophes vont jusque-là. Le Mont Blanc, ça va encore, mais l'Himalaya, c'est pas commode. Hein. Alors, il faut comprendre que la théologie naturelle, c'est l'Himalaya. Des quantités restent en bas de la montagne. Quelques-uns essaient de monter, s'arrête en route et aller à la source, découvrir la source. Premier, ce n'est pas commode. Alors, je prends toujours cette petite définition de la philosophie de Peggy, remonter à la source. Je la prends parce que c'est Peggy, parce que c'est facile à comprendre et que tout le monde peut comprendre ça. Et je crois que c'est très vrai du reste. C'est typiquement aristotélicien. Peggy est très aristotélicien, c'est bien évident. Il est dans le réalisme de la nature, le réalisme de tout ce que nous voyons. Monter jusqu'à la source. Alors, vous voyez, si je monte jusqu'à la source, hein, nous voyons diverses sources. La philosophie découvre une première source. Hein. Notons toutes les sources. Et puis notons la source dernière, première source qu'on découvre, hein, première source, la physis. Je le mets en grec pour que vous compreniez mieux la pureté de cette source, c'est la nature. La nature est une source. Oui. La nature, ce n'est pas le fait de la réalité que vous voyez, ce n'est pas le mouvement, nous constatons le mouvement. Quelle est la source naturelle du mouvement? C'est la nature. Alors, il y a une source enfouie, qui est un puits. C'est la matière. La matière est une certaine source. Il y en a qui se délectent dans cette source. La matière. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'ordre des fondements. C'est une source qui est fondement. Puis vous découvrez une autre source, la nature forme. Mais ça, c'est la source du devenir. Tout mouvement implique tout mouvement physique, implique ce fondement matière, implique cette source, cette détermination. La forme, c'est la détermination. La matière, c'est l'indéterminé. C'est le fondement. C'est une première source. Hein. Deuxième source, l'âme. L'âme est une source. C'est très intéressant parce que vous pourriez situer, n'est-ce pas, ceux qui aiment l'histoire de la philosophie, situer les philosophes qui sont restés au niveau de cette première source. Philosophes qui n'ont jamais dépassé la nature. Mais notre cher Gilson, quand il dit que le propre de la philosophie d'Aristote, c'est d'avoir découvert la nature comme forme et matière, comme si Aristote n'avait jamais dépassé la nature. Ça prouve qu'il projette sur Aristote ce que lui-même est. Très intéressant les projections, vous savez, psychologiquement. Hein. Il faut les manœuvrer avec beaucoup d'astuces. Hein, mais c'est intéressant parce qu'ordinairement, on projette sur l'autre ce que soi-même on a découvert. Alors c'est comme ça. Il faut faire attention, mais c'est quand même une distinction très importante, nature et forme. Mais c'est une distinction au niveau de ce qu'est la philosophie comme tout. Je crois que tous les philosophes du tout ne dépassent jamais matière et forme. Ils ont cette espèce de grand chêne matière et forme. C'est on peut pas dire que la matière est une source, on peut dire que c'est un fondement. Alors, le fondement peut être un puits, pas une source. Un puits, un capharnaüm, jeter tout dedans. C'est l'indéterminé et c'est bon pour le feu. Tout est brûlé, non ? Il y a des choses qui résistent au feu, mais c'est le feu. On brûle tout, c'est la matière, c'est le fondement. Puis, seconde source que vous découvrez, l'âme. L'âme est une source. L'âme qui, dans l'homme, est une âme spirituelle. Ah, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, découvrir l'âme spirituelle. Et le fondement, c'est le corps. C'est un peu plus noble que la matière, le corps. Parce que le corps, c'est une matière qui implique des déterminations. C'est une matière organique. C'est ça le corps. C'est une matière organique. C'est extrêmement complexe. Et donc c'est très organisé. Mais c'est une matière. Donc c'est un fondement le corps, comparativement à l'âme. Vous voyez que la distinction nature-forme et nature-matière ne la prolongeons pas en âme et corps, mais schématiquement, on risque toujours de prolonger. Alors que c'est une distinction, comme on dira, analogique. Au niveau du devenir, la distinction nature, nature-matière et nature-forme est analogue à celle au niveau du vivant. Le devenir et le vivant, c'est pas la même chose. Parce que le vivant, c'est un devenir qui se développe d'une manière autonome. C'est un devenir qui a en soi-même sa propre organisation. Il y a un rythme dans le vivant. Et je crois que c'est le propre du vivant d'avoir un rythme. Parce que c'est un développement homogène. Le vivant se développe d'une façon homogène. Il assimile. Donc toujours, il est centre de quelque chose, le vivant. Et le vivant a comme principe, comme source, l'âme. Voilà déjà de ce troisième source. Puis vous verrez s'il y en a d'autres. Hein. C'est intéressant de se poser la question. Troisième source, puisque toujours dans le sens où Peggy nous dit, on cherche les sources. Troisième source, la substance. La substance est une source. Analogue à l'âme, analogue à la nature forme. La substance, c'est au niveau de l'être, au niveau de ce qui est. Une source. Et puis vous découvrez, à côté de la substance, l'acte. Nous y reviendrons, parce que ce sera un grand problème de philosophie première cette année-ci. Alors, est-ce que l'acte est une source ? Ça serait très intéressant. Est-ce que l'acte est une source ou n'est pas une source ? La substance est sûrement une source. Est-ce que l'acte est une source ? Est-ce que, on dira aujourd'hui que c'est un pôle d'attraction ? Est-ce qu'un pôle d'attraction est une source ? Ou est-ce que le pôle d'attraction n'est pas une source ? Posez-vous les questions, c'est intéressant de savoir. Toujours est-il que la substance est acte. Et d'une certaine manière, donc, l'acte est source, et d'une autre manière, l'acte n'est pas source. Parce que le pôle d'attraction peut être source d'une quantité d'activité. Alors voyez, c'est pour ça qu'au niveau de ce qui est, c'est intéressant de voir que de fait, on se pose la question, la substance est une source, ça c'est sûr, et l'acte, c'est quelque chose qui est ultime, Alors, est-ce que ce qui est victime est une source? Oui, est-ce que source maintient toujours en nous le point de vue de la cause efficiente et de la cause formelle? Ou est-ce que source peut être du côté de cause? Ça, c'est un petit problème à côté où je vous laisse le soin de réfléchir. Ça n'a pas grande importance dans ce que nous voyons maintenant. Mais c'est intéressant de voir que, de fait, nous cherchons ces sources. Quatrième source que nous découvrons à partir de la philosophie première, la découverte de l'être premier, la découverte de la substance première, la découverte de l'acte unique. Ce que nous appelons Dieu. Là, nous découvrons une source qui est à la fois première et ultime. Ah. Elle est substance et acte pur. Et c'est vrai, elle est substance et acte pur. Et elle est source ultime. Et source première, au sens très fort. Vous avez donc, vous voyez, c'est quand même très curieux, et dans cette phrase de Peggy, c'est intéressant, le philosophe recherche la source. Il doit aller jusqu'au bout dans cette recherche de la source. Alors, il y a des paliers, il y a des paliers. Premier palier, la nature. Deuxième palier, l'âme. Troisième palier, la substance. Je ne dis pas quatrième palier, l'acte. Je dis troisième palier, la substance. Et puis, une découverte d'un quatrième palier, la source par excellence. La source par excellence, qui n'est plus découverte comme un principe, mais qui est découverte comme une réalité. Alors vous voyez que là, tout de suite, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à saisir. C'est que dans les autres sources, on saisit des principes, des causes. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'être premier, on saisit une réalité. C'est une res. L'être premier est une réalité qui existe. Une réalité qui existe. Je ne dis pas qu'il est un étang pour ne pas tomber dans le guet-apens sur lequel Heidegger nous attaquerait. On dit c'est ce qui existe. C'est qui existe pleinement. Parce que Heidegger étant très sensible à la grammaire, ne l'oublions pas, comme beaucoup de philosophes modernes, qui sont très sensibles au langage et donc à la grammaire, et il risque de rester au niveau du langage et de la grammaire sans saisir la réalité qui est cachée derrière. Alors, si je dis « étant », je suis dans l'ordre du participe. Or, le participe est une forme seconde, ne peut jamais être premier. Donc, si je dis que Dieu est étant, ce n'est pas le premier. C'est aussi gros que ça. Mais c'est intéressant à saisir. Autrement dit, il reste au niveau du langage. Or, l'intelligence dépasse le langage. Tant que vous n'avez pas dépassé le langage, vous ne pouvez pas être philosophe. Tant que vous n'avez pas dépassé le langage, vous pouvez être logicien au niveau du langage. Oui. Pour le logicien, on lui demande d'avoir un langage correct. Mais vous ne pouvez pas être philosophe en restant au niveau du langage. La philosophie n'est pas au niveau du langage. Aristote l'a dit, saint Thomas l'a repris, et les modernes l'oublient. Hein ? Bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que les derniers fruits de la philosophie sont au niveau du langage. Et quelqu'un comme Heidegger est encore trop proche de certaines philosophies pour ne pas avoir dépassé pleinement le langage. Il n'a jamais découvert ce que Aristote a dit, que le nous, l'intelligence, est séparée. Parce que c'est ça que l'intelligence est séparée. C'est-à-dire l'intelligence est capable de dépasser le langage. Parce qu'elle considère que le langage est un fruit, que le langage est une est ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, et qu'elle est source du langage. Donc elle est plus que le langage. Je ne peux pas identifier langage et intelligence. Je peux montrer que le langage est un fruit de l'intelligence, mais que l'intelligence va beaucoup plus loin. L'intelligence est séparée. C'est extraordinaire d'avoir découvert le « nous séparé ». Alors que le langage est lié à la sensibilité. Le langage est lié à l'imaginaire. Vous n'avez pas un langage méta-imaginaire. Ça n'existe pas. Chaque fois que vous parlez, l'imagination est là présente. Il y a une petite image qui se fait immédiatement. Le langage est au niveau de la représentation, mais dans le langage, il y a la signification qui montre que le langage est relié directement à l'intelligence. Et que l'intelligence peut, à travers le langage, saisir la signification. Dans l'étang, je peux me demander ce que ça signifie. Et je peux rester au niveau de la représentation. Alors, si je reste au niveau de la représentation, l'étang, c'est une forme grammaticale du verbe être. Et c'est le participe. Et le participe n'est jamais une forme première. Et donc l'étang exprime un être second. Alors que quand je dis ceci est, j'exprime une forme première. Et donc je suis dans une signification première. Vous voyez, c'est simplement pour vous rappeler ça. Donc lorsqu'il s'agit de la découverte de la source première de toute chose, et la source ultime, ce que les traditions religieuses appellent Dieu, n'oubliez jamais le mot Dieu, est un nom de tradition religieuse. Le philosophe ne l'a pas inventé, mais le philosophe redécouvre l'être premier, la réalité première qui existe, la substance première et l'acte pur, et dit cette réalité existe. Et c'est ce que nous appelons Dieu. Donc, vous voyez bien, quand je me pose la question, la philosophie peut-elle atteindre Dieu? C'est une question piégée, ça. Hein, toujours être intelligent et être plus intelligent que ceux qui nous posent des questions piégées. Est-ce que l'intelligence humaine peut atteindre Dieu? Alors, je répondrai. L'intelligence humaine, elle est faite pour l'être. Elle peut découvrir la source première de ce qui est. Oui. Et en découvrant la source première de ce qui est, elle dit qu'elle rejoint ce que les traditions religieuses ont dit de Dieu. Il n'y a donc pas le Dieu des philosophes et le Dieu des croyants. En respectant Pascal, il n'y a pas le Dieu des philosophes et le Dieu des croyants. Si je suis suffisamment intelligent, je dépiste tout de suite cette opposition du Dieu des philosophes et du Dieu des païens. Vous voyez, s'il y avait deux dieux, vous croyez que Dieu peut être le Dieu des philosophes sans être le Dieu des croyants? C'est impossible. À ce moment-là, il y a deux vérités. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Où j'atteins vraiment la réalité première que nous appelons Dieu, ou nous ne l'atteignons pas. Mais c'est vrai que le philosophe atteint Dieu par la réalité qui est toute proche de lui, les réalités qui existent. Et ces réalités qui existent, il essaie d'en saisir la source première. La source première et ultime que nous appelons Dieu. Donc, le philosophe atteint l'être premier, qu'il considère comme une substance séparée, qu'il considère comme l'acte pur, et il dit, cette réalité que j'atteins, cette réalité qui est nécessaire, C'est ce que nous appelons Dieu selon les traditions des Juifs. Donc vous devez répondre, le philosophe n'atteint pas immédiatement Dieu. Alors que les traditions religieuses parlent immédiatement de Dieu. C'est pour ça qu'elles ont donné un nom. Un nom qui divers du reste. Relever tous les noms de toutes les traditions religieuses par rapport à l'être premier. C'est intéressant à faire, ça. Parce que toutes les traditions religieuses ont un nom pour l'être premier. Et quand vous regardez la signification de ces noms, vous voyez que tous ces noms, c'est essayer de comprendre la relation qui existe entre l'être premier et l'homme. Il est le Tout-Puissant. Il est la Providence. Il est celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est le Voyant. Et ainsi de suite. Déjà dans la Bible, hein, c'est très intéressant de regarder tous les noms de Dieu. Le Très-Haut, l'Éternel. Mais tous les noms de Dieu, c'est pas le philosophe qui donne des noms à Dieu. Le philosophe est incapable de donner un nom à Dieu. Pourquoi? Parce que il n'atteint pas immédiatement Dieu. Tandis que le philosophe peut nommer l'homme. Il peut dire tu es un homme. Parce que tu parles. Parce que tu souris. Tu es un homme. Si tu ne parlais pas, si tu ne souriais, si tu n'avais pas la capacité de sourire, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une brute. Évidemment, tu marches à deux pattes, c'est un signe. C'est un signe qu'il doit y avoir quelque chose. Mais tu as la station droite. Mais aujourd'hui, beaucoup ont la station verticale. Alors aujourd'hui, on ne sait plus. Est-ce que c'est un homme ou un retour à l'animal? Une régression. Non, on ne sait pas très bien. Alors, mais il peut discerner par certains signes qu'il est en présence d'un homme. Il peut par certains signes qu'il est en présence d'un être absolu. Que les traditions religieuses appellent Dieu. Et quand je mets les traditions religieuses, j'inclus la tradition judéo-chrétienne. Que les traditions religieuses appellent Dieu, je dis que la tradition religieuse judéo-chrétienne est particulièrement intelligente. Elle est la plus intelligente de toutes les traditions religieuses. Le philosophe peut dire ça. S'il est loyal, il peut dire ça. Parce que je crois que c'est la tradition la plus intelligente. La tradition religieuse judéo-chrétienne. Ce qui nous permet, du reste, de regarder cette tradition religieuse de l'extérieur comme une source extraordinairement lumineuse, extrêmement intelligente, qui va jusqu'à dire que Dieu est amour. C'est un nom de Dieu quand je dis Dieu est amour. Et je montre Dieu est lumière, Dieu est amour. Ça fait partie des traditions religieuses. C'est extrinsèque à la philosophie. Et le philosophe respecte. Le philosophe doit respecter les traditions religieuses. Mais il peut aussi les purifier. Parce qu'il est, quand il est en face de traditions religieuses qui sont particulièrement opaques, il doit les purifier. Le philosophe a le droit de purifier les traditions religieuses de l'extérieur. Il n'a pas le droit de purifier la foi. Ça, c'est très important, vous voyez. Il faut essayer de saisir ce que c'est que la théologie naturelle. Parce que la théologie naturelle, c'est à partir du moment où l'intelligence humaine peut affirmer qu'il existe nécessairement un être premier, un être immuable, un être qui est acte pur, que nous appelons Dieu. Dès qu'il dit ça, il change de registre. Il met l'homme en relation avec sa source première. Alors vous voyez tout de suite, hein, j'espère, la différence de caractère de ces sources 1, 2, 3 et la source 4. Les sources 1, 2, 3, c'est la découverte de principe. c'est la découverte que l'intelligence fait à travers une analyse d'une cause. Et je découvre quelque chose que seule l'intelligence peut saisir. Quand je découvre la source numéro 4, je découvre beaucoup plus qu'un principe. Je découvre une réalité. Et c'est pour ça qu'immédiatement, je suis engagé dans tout mon être. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de découvrir la nature, l'âme, la substance, je ne suis pas saisi dans tout mon être. C'est mon intelligence qui est saisie. C'est mon intelligence qui est saisie devant un principe, devant une cause. Ce n'est pas la même chose. Quand je découvre l'être premier, je découvre une réalité existante. Et je découvre que cette réalité existante, c'est mon bien. Un principe n'est jamais mon bien. Il est le bien de mon intelligence. Mais il n'est pas mon bien. Tandis que quand je découvre Dieu, je découvre mon bien. Je découvre ce qui, pour moi, est ma fin. Ce qui donne la signification à toute ma vie. Tandis que je ne peux pas dire que la nature donne la signification à toute ma vie. Non. La découverte de la nature donne la signification à ma recherche de ce qui est en mouvement. La découverte de l'âme donne la signification de ce à ma recherche du vivant. La découverte de la substance donne une signification à ma recherche de ce qui est. Mais pas de ma vie propre d'homme. Tandis que quand je découvre la réalité première, c'est-à-dire la réalité ultime, Dieu, je découvre ce qui donne la signification à toute ma vie. Parce que c'est une réalité existante et que c'est mon bien. Vous voyez qu'à partir de ce moment, la philosophie devient sagesse. C'est ça qui est intéressant. La philosophie devient sagesse. Elle est sagesse à partir du moment où elle découvre la réalité première, pas avant. C'est pour ça qu'il y a un changement de vitesse extraordinaire à ce moment-là. Ici, je suis dans l'ordre de l'analyse. Les trois grandes parties de la philosophie spéculative. Je suis dans l'analyse. Quand je découvre la réalité première, je ne suis plus dans l'analyse. Je suis en face d'une forme de connaissance d'un type nouveau qui relève de la sagesse. Et ce type nouveau de connaissance, on va l'appeler contemplation. La réalité première, je ne peux pas l'analyser. Elle est inanalysable. Je ne peux pas analyser Dieu. Je ne peux que le contempler. Et c'est pour ça que dès que je découvre l'être premier, que nous appelons Dieu, nous disons tout de suite, cet être premier, il existe selon un mode d'être tout à fait unique. Il existe dans une totale simplicité. Et donc, il échappe à toute analyse. Ça, c'est très très important de comprendre ça, parce que ça nous fait comprendre que la sagesse a une manière de se développer qui est tout à fait différente des autres parties de la philosophie. Les autres parties de la philosophie, c'est l'analyse. C'est l'induction qui commande tout. Tandis qu'au contraire, quand je découvre l'être premier, mon intelligence cherche à contempler. Ah, je ne deviens pas tout de suite contemplatif, hein, mais mon intelligence cherche à contempler. Parce que l'être premier, je ne peux que le contempler. Je ne peux pas l'analyser. C'est faux, il n'y a pas d'analyse. Puisqu'il est simple. Donc il échappe à toute analyse. Mais je sais que ce mode de contemplation est quelque chose d'ultime. Mon intelligence est faite pour la contemplation. Elle n'est pas uniquement une intelligence qui analyse. Elle demande d'analyser, parce que mon intelligence n'est pas intuitive, elle a besoin d'analyser. Mais mon intelligence est faite pour la réalité dernière, ultime. Et parce qu'elle est faite pour la réalité ultime et dernière, mon intelligence est faite pour contempler. Donc, là, je saisis bien ce que c'est que la contemplation. La contemplation, c'est ce qui me donne... Je veux dire, on saisit bien ce que c'est que la sagesse, parce qu'on saisit que la sagesse est faite pour contempler l'être premier. Donc, je crois que vous voyez bien... au moins ces trois grandes parties d'analyse philosophique, le devenir, l'opération vitale, ce qui est. Toujours bien distinguer les trois parties. Et quand il s'agit d'être premier, je ne peux que le contempler. Toute la théologie naturelle, c'est donc la sagesse qui réclame la contemplation. Je contemple autant que je peux l'être premier en disant il est simple, il est parfait, il est bon, il est infini. Toutes les grandes manières de regarder l'être premier, ce qu'on appelle d'une façon classique et d'une façon qui n'est pas tout à fait correcte, les attributs de Dieu. Vous voyez, quand je dis les attributs, je suis encore dans l'analyse. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait juste. Je contemple la manière d'exister de l'être premier. Alors là, c'est un langage qui est précis. Je contemple la manière particulière de l'existence de l'être premier. Il est simple. La simplicité, on ne peut que la contempler. La perfection de l'être premier, on ne peut que le contempler. La bonté de l'être premier, on ne peut que la contempler. C'est elle qui m'attire. Son infini aussi. Je veux aller le plus loin possible dans cette contemplation. Puisque je comprends que cette contemplation, c'est ce qui donne à mon intelligence humaine toute sa signification. Mon intelligence humaine n'est pleinement elle-même que quand elle contemple. Alors là, il y avait quelque chose d'intéressant à noter tout de suite, c'est de comprendre le lien entre l'amour et l'intelligence dans l'analyse philosophique et dans la contemplation philosophique. Ça, mettez ça en petit nota bene, parce que c'est une question très importante et qui est délicate, mais qui est très importante. Je ne peux analyser philosophiquement, je ne peux faire de la philosophie que lorsque j'aime la vérité. C'est l'amour de la vérité qui me donne cette finesse de l'intelligence. Autrement, je dégringole dans l'intelligence géométrique, hein, au sens pascalien. C'est-à-dire, je dégringole dans une intelligence qui ne va pas jusqu'au bout de l'aspect qualitatif de l'intelligence. Donc, il faut comprendre que l'amour de la vérité, le thumos, comme disaient les Grecs, hein, le thumos est absolument nécessaire pour que on puisse entrer dans la philosophie. Étant donné que c'est difficile, il faut donc aimer beaucoup la vérité. Un grand amour, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on l'aime. On ne sait pas très bien ce que c'est parce qu'on sait que c'est quelque chose de grand et que c'est quelque chose qui peut seul satisfaire mon intelligence. Alors on l'aime, il y a ce thumos. Cette avidité, ce désir d'aller le plus loin possible dans l'ordre de la recherche philosophique. Donc il y a cet amour de la vérité. Quand je parle de l'amour de la vérité, il pousse mon intelligence à être particulièrement aiguisée. Lorsqu'il s'agit de la sagesse, est-ce que l'amour de la vérité n'a-t-elle pas une nouvelle place? L'amour de la vérité par rapport à toute l'analyse philosophique demeure extrinsèque. Le philosophe, quand il analyse, regarde la réalité. La réalité existante. Parce qu'il n'analyse que la réalité existante. En réalité, il regarde l'homme. Il regarde ce qui est. Ce qui existe. Et c'est son intelligence qui analyse. Et donc, l'amour de la vérité pousse, donne une application. Je suis attentif et je ne veux rien laisser tomber. Je veux tout saisir. C'est ça l'amour de la vérité, ça me rend attentif. Ça enveloppe mon intelligence et ça la pousse. Quand j'entre non plus dans cette analyse, mais que j'entre dans la contemplation, c'est-à-dire quand j'arrive à la théologie naturelle, à la sagesse, est-ce que l'amour de la vérité reste extrinsèque ou demeure intrinsèque? Enfin, c'est un très gros problème et très important. L'amour de la vérité, qui est au point de départ, ne va-t-elle pas, lorsqu'il s'agit de la découverte de l'être premier, de Dieu, que je ne peux plus analyser, qui échappe à mon expérience immédiate, est-ce que cet être premier ne va pas appeler un nouvel amour qui, lui, va en quelque sorte permettre à mon intelligence d'être plus proche de cette réalité qui transcende, qui dépasse, pour réparer la myopie de mon intelligence. Ce sont mes lunettes d'approche. Vous voyez, ça c'est très important. On ne l'a pas beaucoup traité, hein, au point de vue philosophique. Et je crois que c'est très important. L'amour de la vérité devient intrinsèque à mon regard de sagesse. Et n'est pas extrinsèque. Il devient intrinsèque. C'est-à-dire que l'amour de la vérité va permettre à mon intelligence de devenir contemplative. C'est par l'amour de la vérité que mon intelligence n'est plus seulement analytique, elle analyse, mais qu'elle peut contempler. Vous comprenez, je suis en face d'une réalité qui m'échappe. Une réalité dont je n'ai pas l'expérience immédiate. Je sais pourtant que cette réalité existe, qu'elle est plus importante que toutes les autres réalités. Et plus je la connais, plus je vois combien c'est la source de tout. Alors, à ce moment-là, l'amour de cette vérité devient pour moi la possibilité de m'approcher plus de cette réalité. Ce n'est pas seulement ce qui me pousse. L'amour de la vérité, ici, demande à la volonté et à l'amour de s'effacer pour laisser l'intelligence dans une objectivité tout à fait parfaite. Parce que cette réalité existante qui est l'homme, l'homme existant, je peux l'expérimenter directement. Et si je peux l'expérimenter directement, je n'ai donc pas besoin d'autre chose. Et donc l'amour de la vérité consistera à s'effacer pour laisser l'intelligence face à face avec la réalité, avec l'homme existant. Tandis qu'au contraire, l'amour de la vérité ici, qui devient de plus en plus intense, puisque je m'approche de plus en plus de la source, ça brûle de plus en plus, alors je me rapproche de plus en plus, cet amour de la vérité va être en quelque sorte ce qui va permettre de m'approcher plus. Étant donné que cette réalité, je ne l'expérimente pas directement. je n'ai pas une relation directe. Alors l'amour de la vérité va être comme un tremplin qui va me permettre d'être plus proche. Et j'ai à partir de ce moment-là comme une connaissance affective qui me permet de contempler. Ce n'est plus une pure connaissance spéculative. C'est une connaissance spéculative affective. C'est ça la sagesse. La sagesse implique qu'il y ait un élément particulier. Et c'est ce qui explique comment ceux qui auront une définition de l'objectivité purement logique. Il y a une objectivité logique. Il y a une objectivité philosophique et il y a une objectivité de sagesse. Ça explique comment des quantités de philosophes trop logiciens diront que la sagesse n'est plus objective parce qu'il y a un élément d'amour qui intervient. Et ça, c'est vrai. On le voit très bien, ça. Ils voudront rester dans le rationnel. Ils identifieront l'objectif avec le rationnel. Or, l'objectif ne s'identifie pas avec le rationnel. L'objectif, c'est ce qui est capable de déterminer mon intelligence. L'objectif, c'est ce qui est capable pour mon intelligence d'atteindre la vérité. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas identifier l'objectif avec une méthode rationnelle. L'objectif, ce n'est pas seulement ce qui est capable d'être mesuré. C'est un type d'objectivité, mais ce n'est pas la seule objectivité. C'est très vrai que la sagesse va nous faire découvrir un nouveau type d'objectivité que je connais déjà grâce à l'éthique. Et vous voyez, c'est là où l'éthique me permet de faire ce dernier dépassement. Dans la connaissance éthique, il y a la connaissance affective de l'ami. Qu'est-ce qui est le plus objectif? Connaître l'ami selon une objectivité psychologique de test, ou de connaître l'ami par l'amour que j'ai de lui? Et ça, nous pouvons l'expérimenter tous les jours. Vous savez, quand on essaie de voir le critère d'une vocation, en disant, allez voir les psychologues, je vais déterminer en fonction des psychologues. On dit, ah voilà, voilà, vous avez un critère objectif. Qu'est-ce que c'est que ce critère objectif? La vocation est-elle une question de personne ou une question de mécanisme logique? C'est très important, ça. Que dit la psychologie sur une personne? Nous l'avons vu à la session sur la personne et la psychologie. Hein. Elle dit certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ont des réactions affectives plus ou moins rapides. Il y a des gens qui ont des réactions psychologiques plus ou moins rapides. Il y a des gens qui sont nés dans tel ou tel climat, tel ou tel milieu. Et ça, la psychologie dénote tout ça. Alors, la psychologie peut-elle déterminer une vocation? Non. Elle ne détermine qu'un certain mécanisme de conditionnement. La vocation regarde la personne humaine dans sa finalité, ce qui est au-delà du point de vue psychologique. Les psychologues peuvent donner des renseignements, mais ne peuvent pas déterminer. Déterminer une vocation à partir du conditionnement psychologique, c'est la fin de tout. C'est du matérialisme et du positivisme. Je ne peux pas déterminer une vocation en fonction du point de vue psychologique. Je ne peux déterminer une vocation qu'en fonction de la finalité. Alors, le conditionnement psychologique peut me servir pour me dire oui, cette personne aura particulièrement des difficultés dans la vie commune. Vous voyez, le psychologue peut dire ça. Faites attention au tournant quand il y a un peu de gelée, il peut dire ça. Faites attention à certains moments, il peut dire ça. Le conditionnement. mais il ne peut pas me donner la détermination qui provient de la finalité. Alors, à ce moment-là, je comprends que la connaissance objective, implique le point de vue affectif. Quand j'aime quelqu'un, je ne le regarde plus de l'extérieur, j'essaie de saisir sa finalité. Et en saisissant sa finalité, je peux comprendre s'il est capable ou pas de mener tel ou tel genre de vie, par la finalité, et non pas par le conditionnement psychologique. Alors vous voyez que c'est très important de comprendre qu'il y a un type de connaissance objective qui est affectif. Et ce type de connaissance objective qui est affectif, nous le retrouvons dans le point de vue de la sagesse. Alors ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, c'est évident. La connaissance de sagesse n'est pas du tout la même que la connaissance dite objective de l'analyse ou de la mensuration ou de la logique.